le bâton de marche devient le bâton du principe de myorrhogisso, c'est-à-dire que les lois merveilleuses équivaut au phénomène. La rivière aux trois passages devient l'océan du principe de shoji sokunehan, c'est-à-dire les souffrances de la vie et de la mort équivalent au nirvana. Et la montagne de la mort devient le grand sommet du principe de bonno sokubodai, où les désirs équivalent à l'illumination. Alors à propos de ça, il faut voir que sans la pratique, les désirs sont les désirs, point. Les chimères les attachent toujours, elles sont là. Sans la pratique, les souffrances des vies et des morts sont les souffrances des vies et des morts, point. Il n'y a rien qui change. Lorsqu'on dit que les souffrances de la vie et de la mort équivalent à l'éveil, ou que les troubles équivalent à l'éveil, le terme équivalent, c'est soku en japonais, et soku c'est myorrhogisso. Autrement dit, ce n'est que par le myorrhogisso que les troubles deviennent l'éveil, ou que les souffrances de la vie et de la mort deviennent le nirvana. À ce propos, Nichiren dit la chose suivante, à propos donc de ces deux concepts. Ces doctrines sont des questions profondément sérieuses et graves. Elles ne sont autres que l'équivalence des mauvaises passions et de la bodhiité, l'équivalence du cycle des vies et des morts et du nirvana. En fait, au moment de l'union sexuelle, qu'un homme et une femme récitent Nam-myoho-renge-kyo, est l'équivalence des mauvaises passions et de la bodhiité, l'équivalence du cycle des vies et des morts et du nirvana. Il n'est d'autre équivalence du cycle des vies et des morts et du nirvana que dans l'éveil au fait que la substance des vies et des morts n'est ni créée ni détruite. Autrement dit, que l'on soit laïque ou moine, connaître des gens avec qui on a des relations, c'est pas important. On aura toujours des papas et des mamans, on aura toujours des conjoints, on aura toujours des enfants, on aura toujours une tribu autour de nous, on aura toujours des relations sexuelles, on aura toujours à manger, à baiser, à boire, à dormir, à bosser, tout le temps. Donc c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est au milieu de tout ça, de pratiquer un peu matin et soir. C'est ce qui nous permet de nous éveiller et d'éveiller également tous ceux qui nous sont liés. À ce propos, il y a une très belle chose de Nichiren. Ça devait venir plus tard, enfin, plus tard ou avant, ça n'a pas d'importance. Voilà. À propos justement de ça, il dit « Ayant pitié de leurs femmes et de leurs enfants, ils se lamentent à la pensée d'être séparés d'eux par la mort. Pourtant, dans d'autres vies, au cours de longues durées, est-ce d'un commun accord qu'ils se sont séparés d'une femme et d'enfants affectionnés ? On doit toujours en venir à la séparation. Il faut désirer ne pas porter atteinte à la foi dans le lotus, aller renaître au pic du vautour et y conduire tous les siens. Toujours on est séparé des êtres qu'on aime. Toujours on est rapproché d'êtres qu'on n'aime pas. Au cours des vies et des vies et des vies, on a toujours pleuré, comme dit Shakyamuni, plus d'eau qu'il y a dans les océans. On a répandu plus de sang que les océans. On a bu plus de lait maternel qu'il y a d'eau dans les océans. Toujours, toujours, toujours. On ne peut pas échapper à ça. Avoir un corps, le nourrir, s'envoyer en l'air et faire quelque chose pour continuer à le nourrir en travaillant. C'est comme ça. Mais c'est pas important. Il faut le faire parce qu'on n'a pas le choix. Mais en plus, amener à l'éveil tous les êtres qui nous ont été proches, passés, présents, futurs. Ou transformer ces chimères et ces liens en autant d'être éveillés autour de nous. C'est la même logique. Donc c'est ça qu'il convient d'arriver à faire. Autant que faire ce que. Ensuite, mais complètement à ce limite. Ceci qui est bien et que je voulais vous lire également. Normalement, on peut comprendre, c'est Nikkenchenien, normalement on peut comprendre que l'on devient Bouddha naturellement en accomplissant le bien. C'est ce que les gens peuvent croire. Or, au contraire, dit-il, même les personnes qui commettent le mal peuvent devenir Bouddha en recevant la grande loi du Sutra du Lotus. Cela signifie que fondamentalement, tous les êtres sont le Bouddha au triple corps sans artifice. Aussi, à partir du moment où ils se dotent des grandes œuvres de vertu de recevoir et de garder la loi merveilleuse, toutes leurs mauvaises passions et fautes d'entrave réalisent immédiatement les œuvres de vertu du Bouddha. C'est difficile à croire et à admettre, cependant il faut le croire. Et il poursuit en disant, dès lors, si l'on a foi dans le Bouddha, qui s'est éveillé à Myōrō-rinpoché, nous recevons nous-mêmes telles quelles les vertus du Bouddha sans artifice. Ceux qui pratiquent l'acte du Bouddha et récitent Nam-myōrō-rinpoché voient leur corps, tel quel, devenir Bouddha au triple corps sans artifice. Ils peuvent ainsi attester clairement des œuvres et vertus. En général, on en a déjà parlé, si quelqu'un est vertueux, ça se voit à travers ses actes. Dans une ville, une bourgade, on connaît quelqu'un, on dit oh, « qu'est-ce qu'il est vertueux ce garçon ?» parce que ses actes montrent la vertu qu'il y a en lui. Mais là, il s'agit du Bouddha, et des vertus du Bouddha. Quand Bouddha débarque dans ce monde, il voit bien qu'il y a des êtres qui sont honnêtes, d'autres qui ne le sont pas du tout, des êtres intègres, des êtres ayant un peu de compassion vis-à-vis d'autrui, mais il voit aussi des êtres en enfer, des limites pour tout le monde. Donc, voyant ça, il se dit que ces êtres n'ont pas les vertus du Bouddha. Donc, plutôt que de leur demander de faire des efforts vie après vie après vie pour obtenir tout doucement les vertus qui produiront enfin des actes adaptés aux vertus, il leur met plutôt le Nam-myōrō-rinpoché, qui est facile à pratiquer, et récitant Nam-myōrō-rinpoché, en fait, on pratique l'acte du Bouddha. Eh bien, pratiquant l'acte en tant qu'effet des vertus qu'on n'a pas, eh bien, en pratiquant l'effet, les vertus naissent. Donc, il inverse le rapport. Il fait pratiquer des actes de façon à ce que les vertus correspondantes aux actes apparaissent. Et comme l'acte qu'on produit en récitant Daimoku, c'est l'acte de l'éveil, bien la vertu nécessaire, correspondante, apparaît forcément. À force de produire l'acte dans les six voies, telles que nous sommes, eh bien, en nous naît la vertu du Bouddha. Jusqu'au moment où les vertus et les actes seront absolument identiques. C'est pour cela que dans notre école, il est dit que on peut réaliser à un moment que l'ascèse de la pratique, parce que pratiquer matin et soir, c'est une ascèse, il faut se lever plus tôt, se coucher plus tard, je sais pas, c'est pas facile, hein, on peut avoir des obstacles. Mais il est dit que l'ascèse est la nature innée. Donc à un moment, on réalise que pratiquer matin et soir, en fait, c'est notre nature que de pratiquer l'ascèse et y trouver de la joie en pratiquant la loi. Ça, au début, non, on ne voit pas. Au début, c'est réellement une ascèse, parce que c'est dur de se décrocher du téléviseur, d'aller pratiquer, ou de larguer les gosses 5 minutes pour aller pratiquer un petit peu. C'est difficile. Donc, c'est une contrainte, bien sûr. On peut le voir comme une contrainte. Au fur et à mesure, ça devient une joie. On voit que c'est notre nature innée que de produire l'éveil. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. Aussi, il est dit, en pensant à votre époux, soyez-en absolument convaincus. Prendre conscience de tout cela, c'est atteindre l'illumination sans changer d'apparence. Et s'éveiller à cela, c'est ouvrir l'œil intérieur de la sagesse du Bouddha. Autrement dit, il y a deux phases, si vous voulez. Une phase où on ne peut pas douter de l'enseignement. Donc notre esprit est irrigué par ce que le Bouddha enseigne. Et puis il y a la phase d'après, où c'est l'éveil. Donc au début, le fait de croire permet de garder l'enseignement du Bouddha. Cet enseignement irradie dans notre esprit, notre pensée est guidée par l'enseignement du Bouddha. Et puis il y a le moment où tout à coup c'est l'éveil, ça passe de quelque chose de théorique ressenti intuitivement à cet ébranlement physique extraordinaire qu'est l'accès à l'éveil. Parce que lorsqu'on accède à l'éveil, c'est comme un barrage qui se rompt. Avant, il y avait le barrage et l'eau derrière, donc on croyait quand même, et puis à un moment, l'éveil survient. L'éveil qui survient, c'est le barrage qui s'effondre. Donc ça, on le voit, on le sait, ça prend un instant, mais ça ébranle toute la vie après. La marque reste toute la vie après, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, à propos de ça, il est dit... Le souverain de la loi Nikken Shonin dit la chose suivante. Cet enseignement est également appelé l'enseignement de la perfection et de la soudaineté. Perfection et soudaineté impliquent que sont promises à tous par le biais de l'enseignement les œuvres et vertus par lesquelles tout parvient soudainement à l'ultime dans la fusion parfaite, c'est-à-dire parvient immédiatement à l'état de vie le plus élevé. C'est la raison pour laquelle la vie de tous peut recevoir, telle qu'elle, les grandes œuvres et vertus de devenir Bouddha dès ce corps. Alors il dit à propos de cet enseignement de la soudaineté et de la perfection qu'il y a trois logiques, trois aspects distincts. La première logique est la progression par étapes, c'est-à-dire que dans la logique visuelle humaine, lorsqu'on veut monter très haut, on commence par partir du bas, on marche, et graduellement, on arrive en haut. Donc il dit à propos de cette progression par étapes que c'est lorsqu'on a constamment la foi dans les œuvres vertues de la loi merveilleuse, parfaite, soudain et ultime, qu'apparaît le véritable aspect de la réalisation de la voie du Bouddha, que l'on soit un jeune novice ou un fidèle pratiquant. Autrement dit, dans ce cas précis de première logique, le fait de croire d'une manière continue, c'est comme si on voyait d'une manière continue. Le Bouddha voit, il ne croit pas. Nous, on ne peut pas voir, on croit. Mais le fait de croire, c'est agir comme le Bouddha. On agit comme lui. On va citer Daimoku. Donc, c'est la première étape où on ne voit pas encore, on n'a que la croyance comme moteur. La seconde étape, la seconde logique, c'est la suivante. Il arrive qu'au cours d'une longue pratique, soudainement, on obtienne un très grand état de vie. Les œuvres et vertus semblent alors briller de mille feux. Une grande joie surgit, l'éveil apparaît. Pourtant, le jour suivant, on retombe dans diverses souffrances en raison des entraves liées aux fautes du passé. Ça, c'est également le moment où on passe du fait de croire au fait de voir. Il y a une déchirure qui se produit, on fait une pratique assez longue, souvent parce qu'on flippe, parce qu'on a des problèmes, parce qu'on ne sait plus comment s'en sortir, on pratique avec force, intensité, on dit bordel, pourquoi je suis là-dedans. Et à un moment, il y a cette déchirure. C'est un éveil partiel. C'est le huitième état. Ouais, c'est ça. Shomon Engaku. Engaku, huitième état, l'éveil par les facteurs. Si vous préférez, le fait d'entendre la loi fait quitter les six voies. Donc le fait d'entendre, c'est Shomon, premier état, au-dessus des six voies. Shomon, c'est entendre. Donc celui qui entend l'enseignement du Bouddha, déjà son état de vie, c'est plus les six voies, c'est le septième.
Même pour un aveugle.
Septième état, oui, bien sûr, s'il a entendu. Ensuite, après le fait d'avoir entendu, l'état au-dessus, c'est l'éveil par les facteurs. Ça veut dire que des facteurs anodins, la souffrance, la joie, le plaisir, la détresse, tout ce que vous voulez, ces facteurs anodins produisent l'éveil en nous, parce qu'on pratique. C'est le huitième état de vie, supérieur à celui des dieux. Et après, il y a Bodhisattva et Bouddha. Donc, pour en venir à nous, le troisième aspect, dit-il, troisième logique, c'est que, en fait, la vie de celui qui, avec respect, récite Nam-myoho-renge-kyo, cette vie apparaît telle qu'elle en tant que le Bouddha, avec ses significations inconcevables. On dit qu'il y ait la croyance sans le fait de voir, qu'il y ait une vision brutale, une vision qui a été brutale, mais qui devient de plus en plus fine, sans brutalité. C'est aussi un truc qui existe. Tous les matins, en pratiquant, on creuse. Ça devient plus lumineux, doucement, sans brutalité, sans rupture brutale. Il y a les deux. Hein. Graduellement, doucement, ou rupture brutale. Mais dans tous les cas de figure, c'est faire apparaître le Bouddha en soi, dans cette vie. Donc ça, c'est l'enseignement de la perfection et de la soudaineté. Voilà, Daibadatta changea l'enfer des souffrances incessantes en terre de la béatitude parfaite et de la lumière éternelle. Et la fille du roi dragon parvint elle aussi à la bodhéité sans changer d'apparence. À ce propos, le Daishonin... Mais non, c'est l'enseignement provisoire, non plus, ça. Dans l'enseignement définitif, il n'y a pas à changer d'apparence. C'est pour, c'est dans l'enseignement provisoire qu'il est dit qu'elle change de sexe. Parce que, on est encore dans la partie provisoire. Non, on n'en parle pas. On n'en parle que dans l'enseignement provisoire. Dans le deuxième chapitre.
Ah, d'accord.
Mais c'est encore provisoire. fait, dans la réalité, tous les êtres sont miurolingués. Tout ce qui est, qui n'a pas changé de sexe, ni, comprenez bien qu'on pratique devant un onzon qui est fait de végétal et de minéral. Si on pratique devant un onzon qui est fait de végétal et de minéral ou de bois et de lettres gravées, parce que c'est un onzon en bois, c'est bien parce que le bois, le papier et l'encre peuvent faire apparaître les veilles. Sinon, on ne pratiquerait pas devant, on n'est pas complètement fou. Lorsqu'on pratique un miurolingetto, c'est quoi? C'est du vent et il y a un peu d'humidité qui est produit. Mais le vent et l'eau sont aussi ce qui permet de faire apparaître les veilles. Bien sûr. Il n'y a pas de... Vous voyez? Lorsqu'on est devant le onzon, on est devant l'éveillé. Lorsqu'on récite avec la bouche, on produit l'éveil. Avec l'eau et le vent. Et là, c'est avec le papier et l'encre. C'est pareil. Il n'y a pas de distinction. Hein? Donc, à propos de la figure dragon, donc, qui vient d'atteindre l'éveil. Il est dit, l'atteinte de la bodhinité par la fille du roi dragon n'implique pas qu'elle est la seule à y être parvenue. Elle symbolise le fait que toutes les femmes atteindront la bodhinité. Dans les divers sutras du Hinayana, antérieurs au lotus, on dénie aux femmes toute possibilité d'atteindre un jour l'éveil. Dans les sutras du Mahayana, autres que le lotus, il semblerait que les femmes puissent atteindre la bodhinité. Mais elles ne peuvent le faire qu'après avoir changé d'apparence, devenir un homme, après devenir un moine, machin. Il ne s'agit donc pas de l'atteinte immédiate de la bodhinité qu'implique le principe de une pensée 3000, et le fondement de notre école. C'est une possibilité théorique non concrétisée. Mais la fille du roi dragon devenant Bouddha rend ainsi possible l'atteinte de la bodhinité par toutes les femmes aux époques ultérieures. Qui plus est, Nichiren critique le confucianisme, le brahmanisme, en disant que nulle religion n'a le pouvoir d'entraîner ses propres parents dans l'éveil. Il dit seul le bouddhisme a le pouvoir de les aider dans leur vie future. Les parents étant morts, donc on parle du futur du défunt. C'est donc la véritable voie des sages et des hommes vertueux. Autrement dit, être sage et vertueux maintenant pour nous, c'est d'avoir la capacité d'entraîner ses proches et ses parents dans l'éveil. C'est ça, la grande vertu. Donc il dit, même en suivant les écoles basées sur les sutras du Hinayana et du Mahayana antérieurs au lotus, même pour soi-même, il est impossible d'obtenir l'illumination. Il serait donc vain d'espérer l'obtenir pour ses parents. La possibilité existe en théorie, mais elle n'est illustrée par aucun exemple concret. Ce n'est qu'avec l'enseignement du lotus qui décrit l'atteinte de la bodhinité par la fille du roi dragon qu'est donnée la preuve que toutes les mères du monde peuvent devenir Bouddha. Et lorsqu'il fut révélé que même un homme mauvais comme Daibadatta pouvait atteindre l'éveil, il devint évident que tous les pères du monde pouvaient devenir Bouddha. Autrement dit, le lotus est la base de la piété filiale. Non seulement le père et la mère, non seulement mari et femme ou enfant, et en fait, tout ce qui nous a été proche, nous est proche ou nous sera proche, est entraîné de par notre pratique. Ça, c'est la réelle vérité. C'est ce qu'enseigne le Bouddha originel. Si vous en avez marre, on arrête, hein. Ça va, vous tenez encore, là? Donc, il dit ensuite, car le sutra du lotus permet d'atteindre l'illumination même à ceux qui se sont tout d'abord opposés à lui. C'est le bienfait contenu dans le seul caractère Myo. Autrement dit, on en avait parlé déjà, je crois, ici même. Dans le principe du lotus, il y a un principe qui s'appelle la loi de diamant, qui fait que, rencontrant l'enseignement du Bouddha, il y a deux possibilités. Soit on pratique et on atteint l'éveil, soit on pratique et on arrête, soit on s'y oppose. Alors, dans un cas, ça monte vers l'éveil, et dans l'autre, ça descend vers la souffrance, ce que vous voulez. Mais selon cette idée, celui qui a rencontré la loi et a pratiqué et arrête, bien s'y oppose d'entrée, arrive à un moment de la souffrance où, ne supportant plus la souffrance, celle-ci devient le sol, la terre, sur laquelle il peut prendre appui. Donc, ayant horreur de la souffrance vécue, il peut prendre appui sur la souffrance. Mais cet appui qu'il prend sur la souffrance, en fait, le mène vers l'éveil, parce qu'il l'a entendu déjà, avant. Et donc, aussi, est un éveil. Ce qu'il y a, c'est qu'il a fait un détour. Mais comme il n'y a pas de temps, c'est pas le problème. Donc, dans les deux cas, entendre la loi fait que l'individu va arriver à l'éveil. Quel que soit ce que l'on voit, nous, de sa progression ou de sa non-progression. C'est pas important. Et moi, ce que l'on voit à ce propos n'est pas important. Donc, aussi, il dit, c'est le bienfait contenu dans le seul caractère de Mio. Alors, le caractère de Mio. Premièrement, il y a différents sens. Donc le premier sens de Mio est ouvrir. Donc Niken dit en premier lieu, on ouvre ce qui est fermé. Par exemple, prenons une resserre qui est fermée par une porte. Pour prendre possession des trésors qu'il y a dans la resserre, il faut ouvrir la porte et on condamne l'accès. Transposé à l'être humain, la situation de la porte fermée désigne le Bouddha en nous, prisonnier de nos troubles, de nos actes et des fautes accumulées depuis le passé. Non seulement nous avons oublié la nature du Bouddha qu'il y a en nous, mais qui plus est, certains peuvent ne pas y croire. Donc ça c'est la catégorie des portes fermées. Donc le caractère de Mio a pour vertu d'ouvrir cette porte, autrement dit de permettre la libération de quelque chose qui est en nous et qu'on n'avait même pas imaginé qu'il puisse être possible qu'il soit en nous. Donc c'est un sens de Mio qui est ouvrir. L'autre sens de Mio, c'est doter. Autrement dit, ça signifie que tout phénomène, quel qu'il soit, est doté de toutes les vertus, et tous les phénomènes sont égaux. Donc tous les phénomènes, par exemple on dit, dans le Tiantai chinois, qu'il n'est pas une couleur ou un parfum qui ne soit dans la voie du milieu. Ça veut dire que même une couleur, une odeur, possède la causalité, donc peuvent accéder à l'éveil. Pour le Bouddha, c'est pas différent de l'herbe, de l'arbre, de l'humain ou de l'animal. Tout ce qui est, donc il dit, il y a des poussières qui flottent dans l'air de cette salle de cours. Chaque minuscule grain de poussière est doté de la voie du milieu. Donc tout ce qui est, contient la vérité de la vacuité, de la conditionnalité et de la médiumnité. Autrement dit, tout est doté de toutes les fonctions permettant l'arrivée à l'éveil. Pour nous, pour mieux comprendre, l'encre le possède, le papier aussi. Le bois le possède aussi, et même dans tout ce qui est. Ou si vous préférez, comme on le disait tout à l'heure, la matière est dotée de l'esprit, l'esprit est doté de la matière, ce n'est qu'une seule chose. Ce n'est que notre vue humaine qui établit des distinctions entre ceci ou cela. Mais en réalité, l'éveil peut surgir de tout ce qui est. Parce qu'il n'y a pas une chose qui soit inférieure à une autre. Ou si vous préférez, tout contient toutes les choses. Dans l'instantanéité, tout contient toutes les choses. Donc, on a dit ça, on a dit que c'était le sens de doter. Aussi, Mio a le sens de renaissance, c'est-à-dire naître à nouveau. Ou aussi, on peut dire que, considérant nos vies, avant qu'on rencontre la loi, nos vies étaient dans le brouillard, dans le Schwartz. Rencontrant l'enseignement du Bouddha originel, on se dit, bordel, je vais essayer d'atteindre l'éveil, ça va être cool, je vais pas sortir de cette galère qui était ma vie jusqu'à maintenant. Donc on peut considérer que rencontrer la loi, c'est naître, aussi, quelque part. Ce qui fait que je suis heureux de vous dire que j'ai 36 ans aujourd'hui. Ce qui m'arrange. Ce qui m'arrange. Et t'as 20 ans, toi, maintenant. Et les bébés chez nous. Donc, voilà. Donc, c'est le fait de naître. Le fait de renaître. Encore l'autre sens, c'est de transformer le poison en élixir. C'est-à-dire que tous nos troubles, tous nos actes plus ou moins bons, et toutes nos souffrances deviennent le corps de la loi, le corps de la sagesse et le corps de libération. Ça, c'est transformer le poison en élixir. Mais c'est pas concevable. Ziyi, à ce propos, dit « Mio est ce dont la conception est vaine. C'est ce qu'on appelle devenir Bouddha dès ce corps. » Or ça, évidemment, avant de rencontrer l'enseignement du Bouddha, jamais, 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 vous n'auriez imaginé que vous puissiez devenir Bouddha en cette vie, dès ce corps. Donc c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on doit faire. Même Sharon Stone peut le faire. Il y a aussi un autre sens de Mio, c'est l'identité et la perfection. Donc identité, ça signifie que l'homme ordinaire et la femme ordinaire est le Bouddha. La perfection, c'est la une pensée 3000. Bien qu'identité et perfection soient deux mots distincts, ils sont synonymes de myo. Donc, tous les êtres sont le Bouddha de l'aspect réel. C'est merveilleux, c'est inconcevable. Les êtres qui offensent la loi ne le savent pas, c'est pourquoi on dit que c'est un sutra. Quand on dit le fait d'être, c'est la possibilité même de l'éveil immédiat. C'est ce qu'on doit faire. Une petite partie, un tout petit peu théorique, mais c'est la vie. Il est dit, Nikan Shenin toujours dit que la substance des passions et des troubles n'existe pas ailleurs. Elle est telle qu'elle l'éveil. Et de même, la substance de l'éveil est telle qu'elle la passion, les troubles, donc les souffrances. La substance, donc moi maintenant tout de suite, est donc soku. La substance est telle qu'elle identique à un. C'est le sens de soku selon la médiumnité de toute substance. C'est-à-dire donc que, pratiquant Myoho-Lan-Gekyo, les passions deviennent l'éveil. Et que cette substance soit identique à un, c'est parce que c'est la une pensée momentanée. Mais cela, la une pensée momentanée, qui jaillit de notre corps à chaque instant, c'est quelque chose dont on ne pourra jamais se dessaisir. Il y aura toujours un corps et toujours une pensée qui en jaillit. C'est pour cela que, étant vivant maintenant et en rencontrant la loi, la grande possibilité qu'on a, c'est l'apparition de l'éveil dans cette substance, dont on ne peut jamais se dessaisir, qui ne peut jamais manquer. C'est la une pensée, c'est le corps et l'esprit dans la une pensée. Ça c'est donc pour le sens de mieux. Donc, comme il est dit, comme le dit Zizi, lorsque l'on parle de ce qu'est Myo, Myo est le nom de ce qui est inconcevable. À ce propos, vous me dites quand vous en avez marre, hein, et puis on arrête. Hein. Parce que je comprends que vous soyez fatigué. C'est compliqué, non, ça va, pour l'instant?
Non, là.
Bah oui, c'est normal. Hein. Donc, Nichiren dit, quel est le sens de Myo? Seul est appelé merveilleux, cela d'inconcevable qui est le cœur de notre une pensée. Inconcevable signifie que ni l'esprit ni les mots ne peuvent l'atteindre. Qu'est-ce que le cœur de une pensée? La pensée jaillit à chaque instant. Donc, il dit Myo, c'est ça. Myo, c'est ce dont jaillit la pensée à chaque instant. Or, cette pensée jaillit de quoi? Du corps. Et le corps et l'environnement sont un à chaque instant. Autrement dit, dans l'instantanéité que l'on ne peut pas mesurer, que l'on ne peut pas voir, il y a naissance et mort consécutives tout le temps, du corps et de l'environnement, et la pensée en jaillit. On provient de cela tout le temps. Donc, Nichiren Daishonin dira, le monde des phénomènes est myoho. C'est-à-dire que les phénomènes jaillissent de la merveille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il dira aussi, le monde des phénomènes est renge. Ça veut dire que la cause et l'effet sont simultanés. La cause et l'effet ne sont pas dans le temps, parce qu'il n'y a pas de temps. À chaque instant, naissent et meurent les phénomènes. Ce dont ils proviennent, c'est la merveille, c'est le corps de la loi, c'est ce vis-à-vis de quoi on doit s'éveiller. Notre propre vie en est la marque à chaque instant. Et il dit, le monde des phénomènes est kyo, c'est-à-dire permanent. Donc il y a instantanéité permanente de l'infinité phénoménale tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'est-ce que ça montre? L'enfer, l'avidité, l'animalité, la colère, la joie jusqu'à l'éveil. Et on peut dire ça, c'est là qu'en fait, plus la sagesse est vaste, plus il y a une liberté dans le lieu dont on jaillit à chaque instant, bien sûr. De la manière dont la sagesse est étriquée, le lieu est étriqué aussi, le jaillir de la souffrance à chaque instant est une vie étriquée. Ou dans l'avidité, ou dans la colère, ou dans la compétition, le socle d'où ça jaillit à chaque instant, le monde des conflits avec les autres et des vindictes, tout ça, c'est un lieu étriqué. Où c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sagesse, où l'individu est pieds poings liés, devant réagir comme les conditions lui imposent de le faire. Mais bien sûr, oui, bien sûr. Alors on arrête là, si vous voulez. On n'aura pas terminé le texte. Mais que ça ne tienne. J'avais une petite facile pour la fin. La petite facile pour la fin. Dans les sutras de la sagesse, il est dit les choses suivantes. À propos des gens qui sont entrés dans la voie, donc nous. On les appelle bodhisattva, hein, les êtres qui entrent dans la voie du Bouddha. Donc il est dit, on dit bodhisattva en raison de l'inexistence de l'être, de la notion, de l'annulation de la notion d'être vivant. Le monde des êtres est une expression pour l'absence d'être, parce que le monde des êtres n'existe pas. Il n'existe pas d'être vivant dans l'être vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne détient le principe de son existence. Naître est un effet, mourir est un effet, avoir faim est un effet, et ainsi de suite. Et la pensée est un effet. Donc le corps est un effet, la pensée est un effet. En cela, il n'y a pas d'être réellement vivant dans le monde. Seuls sont vivants les êtres qui entrent dans la voie. Que Shakyamuni appelait Ananda le vivant, Shubhuti le vivant, pour bien montrer que ces êtres étaient engagés dans la voie de l'éveil, et donc allaient devenir réellement vivants et respectables. Mais dans les six voies, où tout ça, tout apparaît en tant qu'effet, on ne peut pas dire qu'il y ait de ce vivant. C'est la raison pour laquelle il est dit les choses suivantes. Des êtres suivent la voie du Bouddha, essaient de pratiquer matin et soir, et entraînent avec eux tous les êtres qui leur sont proches, qu'ils le voient ou pas. Donc il est dit, la masse de mérite possédée par les êtres, quelle qu'elle soit, provient de l'aspiration à l'éveil des bodhisattvas. Autrement dit, tous les mérites que l'on peut voir chez les êtres ici ou là, chez ceux qui ont des mérites, donc l'abnégation, la bonne volonté d'aider autrui, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, toute cette masse de mérites qu'on peut voir chez les êtres humains n'existe que parce que, à un moment, une personne engagée dans la voie, essayer d'atteindre l'éveil, il leur a amené des vertus en pratiquant pour lui. Vous voyez? Donc nous faisons pareil actuellement, en pratiquant matin et soir, on entraîne avec nous des êtres, une infinité d'êtres, qui plus tard apparaîtront comme étant dans les six voies, mais ayant des racines de bien, des vertus, comme on dit, et qui eux-mêmes rencontreront la loi, commenceront à la pratiquer, et entraîneront eux-mêmes un ensemble d'êtres qui auront des vertus grâce à cela, et ainsi de suite. Ce qui donne une image de l'importance de nos existences. À ciao, bon dimanche.